Allons.
Il est 9h09 minutes, donc Myriam Gilbert de Bibliothèque et Archives nationales du Québec est avec moi dans le studio. C'est notre dernière de l'été. Salut!
Salut!
Ça va?
Oui, ça va bien, toi?
Yes, moi aussi. Donc, on est prête pour notre chronique en lien avec une dame qui s'appelait Normande Gagnon, de son vrai nom, alias Dolly Darcel. C'était une personne de petite taille qui travaillait dans le domaine du spectacle, si j'ai bien compris.
Oui, absolument. Donc, les gens, les auditeurs peut-être plus âgés un peu peuvent s'en souvenir parce qu'elle est née le 1er décembre 1933.
OK.
C'était la 18e d'une famille de 19 enfants.
Dont presque 12, la dernière.
Oui, dont 12 ont survécu. D'ailleurs, le dernier n'avait pas survécu, fait que c'était le bébé de la famille, finalement. Ses parents, c'était Ludger Gagnon et Eva Saint-Gelais. Ils se sont mariés à La Terrière en 1908. Ils étaient d'abord, ici, cultivateurs à Saint-Cyriac. Puis quand ils ont dû quitter, quand ça a été inondé, évidemment. Donc, ils ont perdu leur ferme en 1924. Et c'est à ce moment-là qu'ils sont allés s'établir à Saint-Félicien, dans le rang simple. Puis dans le fond, Normande va raconter plus tard que sa mère était âgée de 42 ans quand elle l'a eue. Donc à l'époque, on sait, les grosses familles...
À 42 ans, oui, c'est ça. C'était tard un peu, en même temps.
Elle était épuisée par ses nombreuses grossesses. Et dans le fond, elle est arrivée à terme, mais elle pesait juste 4 livres. Et dans le fond, ça n'a pas été long que le médecin a vu qu'elle était atteinte là, de nanisme. Donc, était un format réduit qu'ils l'ont installé sur la porte du bois de Marc Bélanger.
On voit ça dans les films, hein? Ben oui!
Et dans le fond, pour l'alimenter, les premiers jours, ils ont donné du lait avec un peu de brandy. Donc, on ne conseille pas ça aujourd'hui.
Non, non.
Mais à l'époque...
Le poil non plus.
Non, le poil non plus, exactement. Donc, elle a toujours su qu'elle ne serait pas comme un enfant comme les autres, finalement. Et donc, elle a eu une enfance heureuse, elle était surprotégée par sa famille. Donc, en étant la petite dernière... Et en étant naine, dans le fond, sa famille...
Mais c'était comme la petite poupée. En a pris soin, oui, c'est
exactement.
Ça.
Exactement, c'était comme la petite poupée de tout le
monde. Il l'a entourée.
Oui, exactement. Et sa mère, Eva, va mourir d'angine quand Normande a seulement 12 ans. Et ses frères aînés, Ulysse et Georges-Henri, étaient propriétaires d'une maison de chambre à Saint-Félicien. Et elle va travailler comme femme de ménage, dans le fond, elle va en avoir de toutes sortes. C'est là, ça...
De toutes les couleurs, comme on dit.
De toutes les couleurs, exactement. Et donc, ses frères vont après ça acquérir le château Saint-Félicien, qui a fait l'objet d'une vente publique, parce que son propriétaire était le chef de police de l'endroit. Donc, un chef de police qui était propriétaire d'un hôtel.
Oui, où il y avait de la boisson,
ouais,
ou conflit d'intérêts.
Oui, les autorités religieuses n'étaient pas d'accord avec ça. Et donc, la famille va déménager dans une annexe du château. Et bon, malgré qu'elle va bien réussir dans ses études, Normande va décider de quitter l'école à 16 ans pour aider sa famille. Et elle va servir les clients à la salle à manger, où sa petite taille, évidemment, va attirer
l'attention.
Mais elle va quand même développer son sens de la répartie, son humour. Elle était déjà une petite attraction, finalement, à Saint-Félicien. Elle va vivre malheureusement un événement traumatisant à l'âge de 17 ans. Donc, elle était occupée à changer des draps dans une chambre. Et un des chambreurs, un bûcheron qui est originaire d'une autre région, va se ruer sur elle. Il va tenter de la violer.
Oh.
Et elle va être sauvée par l'arrivée inopinée d'un client, ce qui a fait fuir finalement son agresseur. Mais cet épisode-là va faire en sorte
ça l'a marqué.
Oui, de la rendre consciente de sa grande vulnérabilité. Étant une femme de seulement 3 pieds, 2 pouces et 68 livres, donc ben, de toute façon, les femmes sont souvent plus vulnérables, évidemment, parce qu'on est moins fortes.
Encore aujourd'hui.
C'est ça. Donc, elle va être plus méfiante. Ça va rester avec elle toute sa vie, finalement,
ça
cette
marqué.
Méfiance-là. Oui, c'est ça. Et donc, la famille Gagnon, grâce aux affaires d'Ulysse et Georges-Henri, était quand même assez aisée. Ce que tous ignoraient, par contre, c'est qu'Ulysse, qui était un fêteur, ne payait pas ses taxes et impôts et dépensait beaucoup trop. Ce qui a eu comme conséquence que l'hôtel a été menacé de saisie. Donc, ça a été une douche froide pour la famille qui était menacée de tout perdre. Heureusement, la gestion de l'hôtel va passer au frère Georges-Henri qui était plus sérieux.
Plus responsable.
Plus responsable et qui va s'occuper de régler les dettes. Et un beau jour, la jeune femme va recevoir une lettre de Paul Hébert qui était un culturiste au sein de la troupe Hollywood Daredevil. Donc, c'était une troupe qui était assez connue à l'époque. Et elle l'avait rencontré lors d'un spectacle à Robertval et il l'avait remarqué. Donc, il va lui proposer, bon, c'est sûr qu'à l'époque, on ne pouvait pas appeler aussi facilement, on ne pouvait pas texter non plus.
Oui, c'est ça.
Surtout.
Il faut se parler
ouais, c'est ça.
Fait de visu ou s'écrire.
Oui. Et donc, il va lui proposer de monter un spectacle avec elle et il va la convaincre de quitter sa région en octobre 57 pour s'installer à Montréal. C'était quand même un gros...
Ben oui, c'est une grosse décision à prendre.
Un gros changement. Elle était au début vingtaine. Et c'est là qu'elle va choisir le nom d'artiste de Dolly Darcel et elle va débuter sa carrière artistique. Elle était comédienne et acrobate. Elle forme un duo avec Paul et qui va devenir son époux. Donc, oui, un couple comme improbable, finalement.
Mais ben oui.
Finalement, l'amour était...
plus fort que tout.
Oui. Et un jour, Buddy Lee, qui est un promoteur américain, va approcher le couple pour produire Dolly comme lutteuse. Et à l'époque, c'était bien à la mode, là, les lutteurs, tout ça. Fait que ils vont accepter. Ils partent s'installer en Caroline du Sud. Et Dolly va se produire pendant 3 ans dans une trentaine d'États américains. Et elle va même se lier d'amitié avec Little Beaver. Donc, la plupart des gens...
Ah ben oui, on connaît Little Beaver.
De son vrai nom, c'était Joseph Wilfrid Lionel Giroux. Et, mais l'expérience va s'avérer difficile parce qu'elle doit faire un entraînement de 6 mois sans salaire. On exploitait beaucoup les gens là, oui. dans ce milieu-là. Mm. Et ça va gruger ses économies, évidemment. Et elle était payée seulement 75$ par semaine par la suite. Ce qui n'était pas beaucoup.
Pas beaucoup pour tout ce qu'elle faisait.
Pour tous les spectacles qu'elle faisait. Et les incessantes tournées vont l'épuiser. Les combats contre des adversaires plus lourds mettent sa sécurité même en jeu. Mm-hmm. Et elle va revenir à Saint-Félicien prendre du repos. Et son médecin va lui imposer, d'ailleurs, de prendre du repos. Et ça va lui permettre de gagner du temps jusqu'à la fin de son contrat parce qu'elle ne pouvait pas l'annuler. Donc, elle a été comme en maladie, finalement, pour essayer de gagner du temps parce que sinon, ben, il y aurait eu sûrement des contreparties financières si elle avait voulu annuler le contrat. Et même ça, elle a toujours considéré qu'elle avait une belle vie malgré son handicap. Elle lutte pour se faire une place dans la société. Et elle va se faire le porte-voix des personnes de petite taille et désire sortir ceux-là de la misère et de l'exploitation, ce qui arrivait souvent, surtout dans le milieu.
Oui, puis elle l'avait vécu elle-même.
Elle-même. C'est pourquoi elle va fonder en 1976, en compagnie de Pierre Therrien et Jean-Paul Landry, le Club du Petit Monde du Québec.
Ah!
Et aujourd'hui, qui est devenue l'Association québécoise des personnes de petite taille. Et la mission de l'organisme est simple, c'est assurer la promotion et la défense des droits des personnes de petite taille. Et elle va poursuivre en compagnie de Paul, son époux, sa carrière artistique jusqu'en 87, alors que l'ambiance des cabarets avait changé, s'est envahie par des danseurs et des danseuses nues. Ce qui ne leur plaisait pas. Ils commençaient à être quand même d'un certain âge aussi.
Ben oui.
et donc, ils commencent à vieillir. Et Dolly va décider de réorienter sa carrière. Elle va devenir cartomancienne.
Ah, donc, ben écoute, c'est une alternative.
Oui. Et elle va pratiquer cette activité à Carignan et à Pointe-aux-Trembles avec beaucoup de succès, d'ailleurs. Elle l'a fait pendant plusieurs années. Elle était quand même assez connue. Et en 98, malheureusement, Paul Hébert va commencer à souffrir de la maladie d'Alzheimer. Donc, Dolly doit ralentir la cadence de ses activités professionnelles. Et elle va s'occuper de son conjoint jusqu'à sa mort en 2008. Mais elle va continuer quand même d'être active. Elle est décédée seulement le 14 février 2023. Donc, ça fait ça a fait un an, oui. Elle était âgée de 89 ans. Et c'est ça, elle s'est fait un devoir, dans le fond, toute sa vie, de défaire les mythes sur les personnes de petite taille en brisant leur isolement. Donc, je trouvais que ça valait la peine
de raconter sa
vie, oui.
Ah, bien, c'était vraiment intéressant. Merci, Myriam. Maintenant, bon, là, c'est notre dernière pour l'été. On va se retrouver à l'automne. Entre-temps, les gens qui veulent avoir de l'information sur l'histoire, qui voudraient offrir aussi des documents, des fois qu'on trouve dans la maison, on se demande si ça a de la valeur, si ça n'a pas de valeur, tout ça, on peut vous téléphoner.
Oui, donc c'est le 418-698-3516. Mon poste, c'est le 6314. Les gens peuvent aussi écrire à archive avec un S, Saguenay, .Saguenay, oui, à commercialbanq.qc.ca.
.ca pour te rejoindre. Bien, merci beaucoup. Je te souhaite encore une fois un bel été. J'ai hâte de te retrouver au mois de septembre. Il est 9h19.